est actuellement 7h38. On vient de le trouver. Écoute, il errait dans le stationnement de la station. Mais c'est vrai que ça peut être mélangeant. La première fois que je suis venu aussi. Puis les auditeurs qui venaient nous trouver, lâchez pas.
Parce que le logo est sur le bord du chemin alors que l'entrée est là où l'hôtel.
Voilà.
Alors, les gens pensaient me donner de l'argent parce que c'est un itinérant
en stationnement. Michel Jean est en studio. Bon matin. Comment ça va?
Bonjour tout le monde. Salut.
Oui.
Content d'être ici.
Oui, oui. Présent dans le fond pour le Salon du Livre, j'imagine.
Je serais pas vraiment au Salon du Livre comme tel. Je suis venu aussi parce qu'hier, on a fait le lancement à Machetouillage de Cocum.
Oui.
Dans la communauté. Puis j'étais à Robertval. Puis aujourd'hui, ben, je vais rencontrer des gens aussi du salon et autour du salon. Mais je voulais surtout lancer le livre dans la région.
Ben oui, mais c'est un beau cadeau. C'est le fun parce que honnêtement, on sent le livre qui est habité de cette région qui est la nôtre. On se sent littéralement transporté dans le passé, dans cette époque où on fabriquait cette région-là, où en fait, les colons pensaient qu'ils la fabriquaient, mais qu'elle existait déjà, cette région-là. C'est le fun d'avoir cette incursion-là, d'avoir cette vision-là. C'était quoi l'objectif derrière Cocum?
Ben, à l'origine, Cocum, ça veut dire grand-mère en langue innu. Puis c'est basé sur l'histoire de mon arrière-grand-mère, Amanda Siméon, qui, elle, était orpheline, qui, à 15 ans, a rencontré mon arrière-grand-père, Thomas Siméon, qui, lui, était un Innu. Elle ne parlait pas Innu, il ne parlait pas français, ils sont tombés en amour, ils sont mariés, elle est partie avec lui, elle a fait sa vie, elle a élevé sa famille dans le bois, elle a adopté le mode de vie, elle a appris la langue. Puis encore aujourd'hui, il y a plein de gens à Mastoyage qui se souviennent d'elle.
Ah ouais?
Parce que c'est un personnage très coloré, elle a été sage-femme, elle a été guérisseuse. C'est vraiment quelqu'un qui était respecté. Et donc, j'ai voulu raconter son histoire, mais à travers son histoire, ce que je voulais surtout faire, c'était raconter l'histoire de la communauté Innu. Les conséquences de la sédentarisation forcée, de la colonisation, les pensionnats, etc. Qu'est-ce qui fait que les communautés sont comme on voit aujourd'hui? Puis en même temps, parallèlement à ça, c'est les communautés blanches, à Lacton, aussi, parce que, tu sais, d'un côté, t'as Robertval, de l'autre côté, t'as Machetouillage.
Saint-Prime.
Exact. Aussi, oui, mais puis ça se passe aussi en partie à Alma. Oui. Il y a un passage à Alma, parce que moi, on était élevé à Alma. Donc, c'est de montrer comment les communautés Innu et blanches ont cohabité, puis comment chacun s'est évolué au fil du temps.
Comment c'est? Je sais pas pourquoi cette question-là m'a hanté pendant que je faisais la lecture. Et justement, bon, il y a un lien filial, c'est ton arrière-grand-mère dont tu parles, mais de se mettre dans la peau quand même d'un personnage qui est féminin, est-ce que c'est un exercice qui est plus qui est différent? Comment est-ce qu'on va chercher cette sensibilité-là?
Je sais pas. Je l'ai fait quelques fois. J'ai écrit un livre qui s'appelait El Innu à partir de ma grand-mère, puis moi. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelait Où es-tu dans Amun, qui est un recueil de nouvelles que j'ai dirigé, où c'est un personnage féminin. C'est les seules fois où je l'ai fait, mais honnêtement, ça s'est pas fait. J'ai pas trouvé ça tellement difficile parce que quand je me mettais à la place d'Almanda, je m'imaginais d'une jeune femme de 15 ans, 16 ans. Il fallait avoir le goût de l'aventure, il fallait vouloir aller sortir et puis être en amour. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est un peu le même genre d'état d'esprit qu'on est quand on est adolescent, je pense.
La famille a l'air très présente dans vos livres. Pourquoi?
Ben, c'est qui on est. Je pense que c'est nos racines. La famille est très présente. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aussi souvent très présente dans mes livres parce que même si c'est pas ici que j'habite, c'est la région de mon enfance. C'est vers là que je reviens tout le temps. Ma famille est ici.
Alors, les racines sont importantes.
Exactement, oui. Puis autant Alma, j'ai écrit des trucs qui se passaient à Alma, autant Machetouillage. Mais pour moi, c'est important parce que tout le volet autochtone de la famille est aussi très important. Moi, j'ai toujours été très, très proche de ce côté-là de la famille. Puis si moi, je la raconte pas, cette histoire-là, là, personne ne va la raconter parce qu'elle n'est pas dans les livres d'histoire. Et comment ça se passe? Comment c'est arrivé? Vous savez comment c'est arrivé chez nous dans la famille? La fin du mode de vie traditionnel. Là, la famille, ils vivaient aux passes dangereuses. 10 mois par année. Ils partaient en septembre, ils revenaient au mois d'août. Donc, 10 mois par année, ils vivaient là-bas, ils se tentaient, puis allaient chasser à droite, à gauche. Les femmes restaient surtout autour du camp. Ils partaient en canot, faisaient le tour du lac, parce que c'était trop dangereux de traverser. Ils remontaient la rivière Péribonka. Ça prenait un mois. Les enfants, les vieux, tout le monde ramait et partageait. Puis une journée, ils sont arrivés à la rivière, puis il y avait de la drave. Puis ils se sont fait dire, ben, retourne tout ça chez vous, on utilise la rivière pour le bois.
Hey boy!
Ouais. Mais là, il y a ce bel espace chez nous, c'est en haut. Il a dit, non, retourne tout ça en pointe bleue. Puis ils n'ont plus jamais été capables de retourner, ma grand-mère, la famille, plus jamais été capables de retourner chez eux parce que la forêt était coupée, puis la rivière servait à descendre le bois. C'est arrivé du jour au lendemain comme ça, puis va-t'en pointe bleue. Fait que les problèmes qu'on voit par la suite dans les communautés, c'est simple, les gens se sont retrouvés, qu'est-ce qu'on fait à pointe bleue l'hiver? Puis tu... Alors, personne ne le sait, personne ne le raconte, moi je le raconte.
C'est une façon de le raconter, oui, mais aussi je crois qu'il y a là-dedans une leçon, et je ne sais pas si c'était conscient ou non, mais c'est pas du tout qu'il y a des longueurs dans l'écriture, ça se lit super bien, mais on ressent bien dans l'écriture que le passage du temps était différent et qu'il y avait des choses qui devaient prendre du temps, puis que c'était bien comme ça. On dirait qu'il y a comme une espèce de... J'ai ressenti une forme de leçon de aujourd'hui, tout doit se faire vite, tout doit être rapide, mm-hmm. Il y a un fonctionnement, il y a un temps de réservé à toutes les choses, alors que le mode de vie des Premières Nations était fondé plus sur la nature, plus sur un cycle mm-hmm. naturel. Ouais. Quelque chose qui nous ramène finalement, on est là-dedans avec mm-hmm. Greta Thunberg qui nous fait la leçon et tout ça. On a un petit rappel. Est-ce que c'est pas une forme de victoire pour les Premières Nations?
Oui, parce qu'en fait, t'as vu très juste parce que c'est le rythme du livre. Puis je me suis posé la question quand j'ai écrit le livre. T'sais, mon précédent roman se passait avec des rebelles tamouls au Sri Lanka avec une poursuite dans la jungle. On n'était pas dans la même ambiance. Ça courait, ça saignait, ça tirait. Là, on était là, je me suis posé la question, est-ce que le rythme... L'histoire raconte la vie, comment elle se passait. Donc, il fallait respecter le rythme des saisons, en réalité. Et donc, j'ai essayé d'écrire ça pour qu'on soit dans une ambiance. Et même si on va au rythme des choses, on est toujours dans une ambiance qui va entourer l'acteur. Puis oui, c'est une... Tu sais, je veux dire, les Autochtones voient la vie, l'univers, comme un cercle. Mm-hmm. Les Allochtones voient l'univers comme un chemin. Le progrès, on le suit, c'est une flèche.
Oui.
On va toujours vers le progrès. Les Autochtones, ça va, ça vient. Il n'y a pas d'accumulation de richesse chez les Autochtones. Ça n'existait pas un Innu millionnaire. Parce que tout ce que tu avais, tu devais être capable de le porter avec toi.
Mais cette phrase-là, d'ailleurs, « quand ils chassent, souvent, on dit on en a assez, on en a suffisamment, on en a pour nos besoins.
Oui. »
On dirait que ça aussi, c'est une bonne leçon. Là, t'sais, on dirait que pour moi, personnellement, ma famille, il n'y en aurait jamais eu assez. T'sais, on aurait toujours, puis on en fait toujours trop. Il y a de la surabondance.
On est dans une culture d'accumulation, oui. Tandis que les Autochtones ne sont pas dans une culture d'accumulation, sont dans une culture...
De respect.
De passage puis de partage. Alors, quand t'en manquais, il y avait toujours quelqu'un pour t'en prêter. Dans le livre, à un moment donné, ils vont porter de la nourriture à une famille à côté qui a de la difficulté. Ça se passait comme ça. Ouais. Ma grand-mère disait que mon arrière-grand-père, qui était un très bon chasseur, souvent, il allait aider d'autres familles qui avaient plus de difficultés. Quand une femme allait accoucher, ça se savait, mais il partait, puis les gens arrivaient là-bas, puis avant, il y avait la coucheuse qui était sur place. Donc, on était dans un environnement où il fallait vivre en équilibre avec le monde où on était pour que ça dure. Et ça a duré 15 000 ans. Alors, même que dans le livre, Roberval connaît une période de boom. Alors que les Autochtones perdent leur mode de vie, à Roberval, là, ça marche, là, le château Beamer, il y a des bateaux comme sur le Mississippi qui transportent mm-hmm. les pêcheurs, les touristes en robe puis en chapeau à Falbala et tout ça sur le lac Saint-Jean, etc. C'est la prospérité, les usines, les gens viennent en train, les agriculteurs envoient leur bouffe par train, train réfrigéré. Mais à un moment donné, ils vont épuiser la ressource puis ça va retomber. Et la leçon, c'est que pour les gens de Roberval aussi, la vie est un cercle. C'est-à-dire que tu pensais que le progrès était une ligne droite. Non, on revient. Il y a ça aussi que j'ai voulu raconter dans les voix.
C'est le fun de pouvoir donc se sentir raconter, sentir que l'histoire de notre région a une importance et qu'il y a un développement et qu'il y a quelque chose. Il y a une bonne leçon à prendre dans ce livre-là. Alors, on le recommande chaleureusement. Tu dis que tu ne seras pas toute la fin de semaine au salon. Si les gens veulent aller te serrer la pince, c'est pas ça.
Je vais être là. Je m'en vais justement à Chicoutimi, excusez-moi, à Saguenay.
Oui,
important. Je préfère le nom autochtone.
Oui.
Mais là, puis je vais dans le secteur toute la journée.
Mais juste tu parles de noms autochtones, ça m'a frappé dès le début du livre. On parle du lac Saint-Jean comme Pequakami. Alors que, il me semble que j'avais toujours entendu Pequakami.
Oui, c'est vrai.
Il y a plusieurs façons d'écrire les mots. Moi, j'ai toujours retenu celle-là. Il y en a qui disent Pequakami. Moi, j'utilise celle-là. Ouais, j'utilise Pequakami, qui est la forme la plus courante qui est utilisée. Les Autochtones, souvent, ça évolue avec le temps. Parce que actuellement, il y a un mouvement de réappropriation de la langue autochtone par l'orthographe. Comme par exemple, on appelle mon nom en Innu, Michel, ça va être Michen. Il n'y a pas de L, il n'y a pas de C. On va prononcer Michen. Ils vont réécrire les noms. Il n'y aura pas de. Ils vont réécrire les noms autrement pour que même si le mot est en français, ben qu'au moins il y ait une
résonance.
Une apparence qui est différente de celle. Du dictionnaire.
Mon Dieu.
Ce qui fait que c'est pas simple toujours, mais c'est pas plate non plus.
Mais Michel Jean, merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer
ça
ce matin.
Ça fait toujours plaisir de venir à Allemagne.
Super sympathique. Ben oui, ben bienvenue, c'est la maison. Ça nous fait plaisir de t'accueillir.
Puis en plus, on a des cadeaux pour ceux qui voudraient lire le nouveau livre de Michel Jean. On en a deux à attribuer maintenant. Donc textez-nous livre sur la messagerie texte, accompagnez votre nom et vous pourrez mettre la main là-dessus.
418-669-1045, évidemment. Ça sera la manière la plus simple de rentrer en contact avec nous. T'inquiète bien, concours. Si vous passez sur notre page Facebook, la boucherie Jaco, hein, qui veut vous faire goûter son jerky, c'est le temps de la chance. Là, vous rentrez dans le bois, messieurs, justement. Ben, vous allez vous inscrire, vous laissez votre nom, tout ça. Vous courez la chance de gagner un 25 $ de certificat cadeau. Ça s'amène bien du jerky lorsque vous allez sur vos terres de chasse. On va nommer trois gagnants à la fin de l'émission.